France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Mexique, la musique et le monde, 25e épisode, Louis Jouvet au Mexique durant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans ce Mexique qui, en pleine guerre mondiale, resserre plus que jamais ses liens avec l'Europe et les États-Unis. Nous sommes en 1943, et de nombreuses émissions dites de propagande sont transmises par les radios, notamment celles qui, à travers les chansons, célèbrent le courage des soldats mexicains engagés dans le conflit. Parmi les plus populaires, le chant du régiment, attribué à Agustín Lara, et El soldado raso, le simple soldat, de Felipe Valdés Leal. En entendant ce dernier titre, au-delà du thème de la guerre, le public mexicain est tombé sous le charme d'une voix nouvelle, celle de Pedro Infante. Il a alors 26 ans et c'est son premier disque. Né au sein d'une famille très modeste du Sinaloa, un état qui fait face à la Basse-Californie dans le nord du pays, il a fait tous les métiers. Menuisier, serveur de restaurant, boxeur et coiffeur, jusqu'à réaliser enfin son rêve, devenir chanteur. Mes boys de soldado raso, je vais rejoindre mon régiment. Vierge de Guadalupe, protège ma mère et ma fiancée.
Me voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas. Con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando, llorando su despedida. Voy a la guerra contento, ya tengo rifle y pistola. Ya volveré de sargento cuando se acabe la bola. No más una cosa pienso, dejar a mi madre sola. Virgen morena, mándale su consuelo, nunca jamás permitas que me la robe el cielo. La guadalupana protegerá mi bandera. Y cuando me halle en campaña muy lejos ya de mi tierra, les probaré que mi raza sabe morir donde quiera. Mañana salgo temprano al despuntar nuevo día. Y aquí va otro mexicano que va a jugarse la vida, que se despide cantando que viva la patria mía. Virgen morena, mi madre te encomiendo, cuídala que es muy buena, cuídala mientras vuelva.
Pedro Infante avec le Mariachi Tapatillo de Marmolejo. Alors que le Mexique s'engage dans le conflit mondial, la vie culturelle suit son cours dans le pays. Dans la saison de concert est créée en juillet 1942 la première symphonie d'un compositeur jusqu'alors méconnu, Eduardo Hernández Moncada. On le connaissait simplement comme directeur du Conservatoire national, et sa symphonie est allée droit au cœur du public. C'est une musique moins nationaliste qu'à l'accoutumée, mais tout à fait dans la tradition musicale du pays, un peu dans le nouveau style de Carlos Chávez. Ce dernier a invité le chef d'orchestre Dimitri Mitropoulos pour plusieurs concerts et lui a proposé de créer cette symphonie. Ce qui semblait a priori une obligation devient pour Mitropoulos une heureuse découverte. Fidèle à son habitude, il dirige par cœur, face à un public pour le moins admiratif. Il a aimé, dira-t-il, la discrétion de Hernández Moncada, qui n'a jamais quitté le Mexique et a su faire épanouir dans son pays et tout seul son talent d'orchestrateur et de compositeur. Mitropoulos avait été assistant d'Erich Kleiber à Berlin et il vivait alors aux États-Unis. Le dramatisme de cette symphonie l'avait beaucoup touché et le public n'a pas ménagé ses applaudissements.
Thank you.
troisième mouvement de la première symphonie de Hernández Moncada, Eduardo Díaz Muñoz à la tête de l'Orchestre philharmonique de la ville de Mexico. De l'autre côté de la frontière, les chansons mexicaines sont toujours aussi en vogue. Aux États-Unis, certains crooners, certains chanteurs de charme, les interprètent même parfois en espagnol. C'est le cas de « Amor », l'amour, de Gabriel Ruiz Galindo, qu'on entend dans le film hollywoodien « Broadway Rhythm ». Et c'est Bing Crosby qui en fait un succès mondial. Crosby a consacré ces années-là une bonne partie de son temps à chanter pour soutenir les troupes américaines et alliées de par le monde. Et de ce fait, certaines chansons comme « Amor » restent très liées à la Seconde Guerre mondiale. « Amor, nació de ti, de mi, de la esperanza. » L'amour est né de toi, de moi et de l'espérance. Des paroles qui parcourent bientôt le monde. Et la chanson est en quatrième position dans le hit parade de l'année 1944 aux États-Unis.
Amor, amor, amor. This word so sweet that I repeat means I adore you. Amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. But somehow or other nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, I love. When you're away, there is no day and nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine, and love me only. Say you'll be mine and love me only.
Le célèbre Amor de Ruiz Galindo dans la version de Bing Crosby. En 1943, la saison musicale à Mexico accueille à nouveau de grands artistes internationaux et l'un des plus prestigieux, c'est le chef d'orchestre autrichien Erich Kleiber en février et en mars. Il dirige plusieurs fois l'orchestre philharmonique et notamment dans deux opéras avec surtout des chanteurs mexicains, Carmen de Bizet et Fidelio de Beethoven. Ce dernier est donné en version concert et c'est la soprano mexicaine Irma González qui chante le rôle de Marceline aux côtés de Regina Resnick dans le rôle-titre. Erich Kleiber rejoint ensuite Cuba, où il vient d'être nommé directeur musical de l'Orchestre philharmonique de La Havane, ce qui lui permet de venir en voisin, diriger de temps en temps au Mexique. Dans les saisons lyriques de la capitale, Irma González est devenue la cantatrice favorite du public. Outre la Marceline de Fidelio, elle a aussi chanté Micaela dans Carmen et son rôle fétiche, Mimi dans La Bohème. Elle est ici enregistrée sur le vif lors d'une représentation en 1960 au Palacio de Bellas Artes, qui est en quelque sorte l'opéra de Mexico.
«
Irma González interprétait l'air de Mimi dans la Bohème de Puccini avec la Orquesta Unión Filarmónica de México sous la direction de Olivero de Fabritis. Parmi les grands artistes internationaux qui viennent à Mexico, il faut citer le violoniste Yehudi Menuhin qui interprète le concerto de Beethoven et la contralto noire Marianne Anderson qui parvient à remplir le vaste palais des Beaux-Arts lors de ses 6 récitals. Quant au violoniste Henrik Schering, il réside à présent définitivement au Mexique et après une série de concerts qui ont réuni un public important, il crée avec un succès retentissant le concerto pour violon et orchestre de Manuel Ponce avec l'Orchestre Philharmonique de la ville. C'est une œuvre de la maturité du compositeur mexicain qui vient d'avoir 61 ans et dans laquelle il cite une de ses œuvres de jeunesse entrée au panthéon de la musique populaire du pays. La mélodie Estrellita, la petite étoile. Et c'est un peu comme s'il se penchait soudain sur son passé. dans le dernier mouvement, la mélancolie cède la place peu à peu à la fête quand une chanson populaire passe comme un éclair et donne le signal de la danse. Le troisième mouvement du concerto pour violon de Manuel Ponce, Heinrich Schering avec l'orchestre de Baden-Baden dirigé par Ernest Bourg. Dans les années 40, malgré la guerre en Europe, le Mexique n'a pas oublié la France et le lien ne s'est jamais rompu. On la retrouve même dans le cinéma mexicain. Alors qu'à Hollywood tout tourne un peu au ralenti, les studios mexicains fonctionnent à plein régime. Et dans les films de divertissement qui sont alors de mise, il faut noter ceux de cape et d'épée comme Le Bossu, d'après l'œuvre de Paul Féval, dont le personnage est interprété par la star mexicaine Jorge Negrete. Negrete avait fait ses débuts dans l'opérette et la comédie musicale, notamment à La Havane, où ses talents d'acteur s'étaient révélés dans le rôle de Danilo de la Veuve Joyeuse de Franz Lehár. De plus, il venait d'enregistrer ces années-là des extraits de l'opérette américaine Rosemary de Rudolf Frimmel, qui se passe au Canada, avec le fameux chant indien dont il donnait en espagnol une version bien tropicale.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Responderás, será un cantar que en el bosque siempre escucharás, rayo de luna será en mi ser la luz de tu. Llega a ti como ayer y hace palpitar de amor tu corazón. Esperaré. Vengas tú al llamarte ya. Thank you.
hace palpitar de amor tu corazón. Esperaré la ausencia del sol. Cuando vengas tú al llamarte.
Rosemary, chantée en espagnol par Jorge Negrete. Le Mexique et la France voient leurs liens culturels se renforcer lors de l'arrivée des exilés. Parmi les premiers, on compte l'écrivain Jules Romain et l'anthropologue Jacques Soustelle, grand spécialiste du Mexique par ailleurs, qui dirige le Comité de libération nationale. Paul Rivet vient d'arriver, lui, de Colombie en juillet 1943 pour le seconder. De plus, Rivet s'associe à Jules Romain pour créer l'Institut Mexique-Europe qui va donner un nouvel élan à la présence culturelle du vieux continent sur la scène américaine. C'est ainsi que Jules Romain est chargé d'accueillir la troupe de Louis Jouvet en tournée dans les Amériques depuis juin 1941. Une véritable odyssée que celle de ces artistes avec leurs tonnes de costumes et de décors, du Brésil et de l'Argentine au pays des Andes, avec tout ce que cela implique de catastrophes, de dangers divers et d'aventures rocambolesques. Ils arrivent de Port-au-Prince et de Cuba, où ils ont été à l'affiche jusqu'au 10 décembre 1943. Ils doivent alors traverser l'île pour atteindre un petit port où un cargo spécial mexicain les attend au large. Après une traversée mouvementée où beaucoup ont dormi sur le pont et un long voyage en train depuis Veracruz, ils arrivent le 2 janvier 1944 à Mexico, soit 20 jours avant leur premier spectacle consacré à l'école des femmes de Molière au Palais des Beaux-Arts. Coïncidence, peu auparavant, sur cette même scène, le concert champêtre de Francis Poulenc avait été créé dans la version pour piano et orchestre. Et il n'est pas de plus beau prélude que cette musique souvent nostalgique, très inspirée de celle du XVIIIe siècle français, pour accueillir Molière et Louis Jouvet au Mexique.
Thank you.
l'adagio du concert champêtre de Francis Poulenc, enregistré en 1948. Il était lui-même au piano avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Dimitri Mitropoulos. Jusqu'au 25 février et du 10 au 31 mars, Louis Jouvet et ses comédiens sont sur la scène du Palais des Beaux-Arts. Au programme, On ne badine pas avec l'amour de Musset, plusieurs pièces de Molière, et spécialement pour Mexico, Monsieur le Trouadec saisi par la débauche de Jules Romain et Ondine de Giraudoux. Giraudoux dont le décès, le 18 février, bouleverse Jouvet au plus haut point. Puis tous attendent pendant le mois d'avril un éventuel départ en France qui tarde à venir. Le théâtre de Guadalajara en profite pour les accueillir au mois de mai. Puis ils sont à nouveau sur la scène du Palais des Beaux-Arts jusqu'au 14 juillet en matinée. Le soir, à l'occasion de la fête nationale française, Carlos Chavez a invité le violoniste Zino Francescatti et le chef franco-américain Jean Morel pour interpréter le concerto de Mendelssohn. Le lendemain, Louis Jouvet réunit les comédiens. Six d'entre eux décident de rester au Mexique, notamment André Moreau, qui va créer un groupe de théâtre qui, pendant près de 20 ans, va redonner son prestige à la salle Molière de la capitale avec un répertoire en français et en espagnol. Tous les autres accompagnent Jouvet à Fort-de-France. Le 13 décembre, la plupart sont en route avec lui vers New York, d'où ils embarquent pour Casablanca, et c'est dans une France libérée qu'ils arrivent à Marseille en février 1945.
Thank you.
Zino Francescatti, violon, l'orchestre de Cleveland dirigé par George Zell, dans le premier mouvement du concerto pour violon de Mendelssohn. Alors que Louis Jouvet et ses comédiens quittaient Cuba, le chanteur mexicain Jorge Negrete arrivait lui à La Havane le 3 janvier 1944. Il y donne 15 récitals, avec le trio Los Calaveras et un orchestre cubain dirigé par le compositeur Montici. Il participe aussi à l'émission radiophonique la plus populaire, La Fête avec le rhum Bacardi. Puis il fait une tournée de 3 mois à travers l'île et enfin, il interprète à nouveau La Veuve Joyeuse avec la grande soprano cubaine Maruja González lors d'un concert de charité. En octobre, il est à Porto Rico. Il chante dans un stade bondé pour les soldats engagés dans la guerre. Et un général portoricain prononce même un discours en son honneur. Car n'oublions pas, Jorge Negrete avait le grade de capitaine d'armée au Mexique. Et voilà que le 19 octobre, un terrible cyclone dévaste Cuba. Jorge n'hésite pas. Il interrompt la tournée à Porto Rico et part offrir un concert gratuit à La Havane en soutien aux sinistrés au Théâtre National. Il est accueilli en grande pompe par le général Batista et même ses ministres communistes sont enthousiastes. Negrete n'a jamais oublié l'accueil que Cuba lui a réservé. Le voici enregistré sur le vif avec son trio Los Calaveras et l'orchestre dirigé par Montici au Théâtre National de La Havane.
Encendidas de arrebol,
mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera. Cielo de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven. En los labios y en la sien, cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina del semblante tierra, no te olvides.
En 1944, les opéras de Mozart sont enfin de retour à Mexico après tant d'années d'absence. Mais c'est hélas une déception. La production de Don Giovanni sous la direction de Yasha Orenstein puis de Sir Thomas Beecham est victime de changements de décor laborieux et le public est très mécontent quand il quitte le théâtre à 2h du matin. Puis Sir Thomas Beecham dirige la flûte enchantée Les Noces de Figaro, mais là, c'est une panne d'électricité mémorable qui le conduit à anticiper son retour à Londres. De toute façon, le public mexicain d'opéra n'est guère intéressé que par l'opéra du XIXe siècle et il a accueilli Mozart avec indifférence. Tout comme la création de Péléas et Mélisande de Debussy avec Raoul Jobin et Marcel Degnat sous la direction de Jean Morel. Seul le Chilien Ramón Vinay, qui a chanté pour la première fois un rôle de ténor, en l'occurrence l'Othello de Verdi, a attiré le public. Par contre, la saison de concerts de 1944 a connu à nouveau une fréquentation extraordinaire et le public y est bien plus ouvert. Chavez voulait depuis longtemps donner leur chance au Mexique aux artistes noirs des États-Unis. Après le succès de Marian Anderson, il a invité le baryton Aubrey Pankey dans un récital de mélodies françaises et surtout la soprano Ella Beale Davis qui a eu une si courte carrière et qu'on écoute ici dans le Negro Spiritual « J'étais au bord du fleuve Jourdain ». Ella Beale Davis, accompagnée par un orchestre dirigé par Victor Olof. Là où Carlos Chavez a été très audacieux, c'est quand il a décidé de créer au Mexique une cantate écrite par l'élève d'Edgar Varèse à New York, le grand compositeur noir William Grant Steele. L'œuvre avait été jouée la première fois 4 ans auparavant lors de la saison de l'Orchestre Philharmonique de New York dans un stade de la ville devant un énorme public où l'on comptait le ministre de l'Intérieur, de nombreux sénateurs et Eleanor Roosevelt. Une cantate composée sur un long poème de la juriste Catherine Garrison Chapin, épouse du ministre de la Justice. Le public mexicain a été bouleversé par cette cantate qui dénonce le racisme et les lynchages qui existaient encore aux États-Unis ces années-là. Au Palais des Beaux-Arts, Chavez avait dirigé le chœur, l'orchestre philharmonique et une mezzo-soprano mexicaine. Le narrateur était l'illustre poète Carlos Pellicer. Le titre de l'œuvre, « They lynched him on a tree », on l'a pendu à un arbre. C'était au Palais des Beaux-Arts de Mexico, les 21 et 23 juillet 1944. Le sixième mouvement de la cantate « And they lynched him on a tree », on l'a pendu à un arbre de William Grant Steele. Les chanteuses Yolanda Williams et Hilda Harris, le chœur Leigh Morris, The Vocal and Sense Ensemble Singers et le Studio Orchestra, placé sous la direction de Philip Brunel. Le 14 mai 1944, et nous sommes de nouveau à New York, ce sont sept fois deux chanteurs mexicains et un grand guitariste portoricain qui montent pour la première fois sur scène ensemble. Et c'est au Teatro Hispano de Manhattan. Ils viennent de fonder leur trio qu'ils ont appelé Los Panchos, en hommage à Pancho Villa. Un trio qui sera légendaire et portera haut et fort les couleurs du Mexique et des Caraïbes, du Carnegie Hall de New York, aux plus illustres scènes du monde.
Esta llama de amor no arde. Haz de cuenta que yo soy como alguien que murió, como gaviota que pasa y se pierde en el de amor aquella, un capítulo más de novela, nuestra comedia acabó sin aplauso siquiera cuando el telón bajó. Thank you.
acabó sin aplauso siquiera cuando el telón bajó. Fue una escena banal nuestro punto.
C'est avec le célèbre trio Los Panchos que s'achève cette 25e émission. Alors mieux vaut tard que jamais. Un grand merci au peintre mexicain Carlos Torres qui a été un soutien et un conseiller essentiel depuis mon séjour au Mexique. Rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, évidemment, une émission disponible en podcast réalisée par Béatrice Trichet, attachée de production Nelly Portal.
À réécouter sur francemusique.fr.